Chers frères et sœurs et chers amis, nous continuons donc aujourd'hui l'étude numéro 2 et le titre sera « S'entraider dans la communauté ». S'entraider dans la communauté. Mais vous comprendrez que toutes ces études ne disons pas, et je le dis de ma part, que je ne dise pas n'importe quoi en vous disant que cela m'arrive dans la bouche comme ça, tout cuit, automatiquement. Ce serait un terrible mensonge. Il est vrai qu'il y a des serviteurs de Dieu, que ce soit des curés, que ce soit des pasteurs, des révérends, des professeurs de théologie, etc., qui peuvent donner comme ça, sans autre, même parfois au pied levé, une conférence, une évangélisation, une étude de plus d'une demi-heure, sans trop se donner la peine d'avoir au préalable étudié soigneusement, préparé soigneusement les choses. C'est vrai, mais je n'ai pas le droit de vous dire que c'est vrai pour moi, car cela ne se passe pas aussi facilement. Il y a évidemment certaines raisons, n'est-ce pas? J'ai quand même pas fait privat docent de Tübingen. Et de ce fait, j'ai un peu plus de peine à préparer mes exposés, mes études, que quelqu'un qui aurait fait plus de 6 ans des études approfondies de la Bible. Alors, des fois, au préalable, avant de commencer, comme aujourd'hui, mon exposé, eh bien, j'ai reçu, je dis bien, et je le répète, pas automatiquement, j'ai reçu dans mon cœur de vous dire quelques phrases. Et je vous l'ai dit donc maintenant. Le chemin est ouvert. Ne demandez pas à voir loin devant vous. Contentez-vous d'un pas à la fois avec le Seigneur. La lumière qui vous éclaire, elle est la même que celle qui éclaire les armées célestes, c'est-à-dire le soleil de justice lui-même. Redoutez beaucoup plus d'avoir l'esprit agité et l'âme troublée, ou de subir quelques autres perturbations intérieures que d'avoir à affronter un tremblement de terre, un incendie ou un cataclysme quelconque. Aussitôt que la paix vous quitte, réfugiez-vous en Jésus-Christ, votre Seigneur, et ceci jusqu'à ce que votre cœur chante de nouveau et que tout en vous soit revenu au beau fixe. Vos moments de désarroi sont ceux que guette l'ennemi pour en faire son profit. Les forces du mal, en effet, rôdent autour de l'âme à la recherche d'un point faible par où pénétrer dans la place pour y exercer leur ravage. Tout ce que vous avez à faire, par conséquent, c'est de rester calme et joyeux. Dieu se charge du reste. Aucune force mauvaise ne saurait prévaloir contre ça. Puissance. Vous seul pouvez la rejeter. Et oui, votre misère, petit moi, votre petit moi, n'est-ce pas, peut se dérober et faire échec aux puissantes forces divines qui ne demandent qu'à l'aide, oui, qu'à l'aider, oui, en effet, à vous aider. Vous l'avez bien compris. Il faut donc que vous appreniez à vous confier en du Seigneur, en lui, et ceci jusqu'au bout. Sachez vous appliquer et vous serez aidé, vous serez conduit et guidé continuellement. Les enfants d'Israël seraient entrés beaucoup plus tôt dans la terre promise si leurs doutes et leurs craintes ne les avaient pas toujours à nouveau rejetés dans le désert. Rappelez-vous toujours que les doutes retardent votre marche. Faites-vous, oui ou non, confiance au Seigneur? Il vous a dit comment vous deviez vivre et il faut que vous y arriviez. Vous êtes ses enfants et il vous aime. Remettez-vous-en à son amour, plein de tendresse. Jamais il ne vous trahira, mais vous devez vous aussi apprendre à lui rester fidèle. Ah! Si seulement vous pouviez tout voir dans la réalité, vous comprendriez, vous avez beaucoup à apprendre quand il s'agit de bannir la peur et de conserver la paix. Tous vos doutes viennent entraver son action. Ne doutez donc plus. C'est pour vous sauver du péché, du doute et du tourment d'esprit qu'il a donné sa vie. Il faut que vous croyiez en lui, et ceci sans douter aucunement. Donc, ne doutez pas, car il est à côté de vous, derrière vous, devant vous, au-dessus de vous, il est partout avec vous. Et chers amis, maintenant, nous allons donc voir cette deuxième étude, s'entraider dans la communauté. Quelle est la prochaine étape? Eh bien, une personne a essayé de se libérer de sa dépression et de trouver de la consolation en Dieu et en sa propre créativité. Doit-elle maintenant essayer d'analyser les raisons de sa maladie émotionnelle et prier pour la guérison de son âme? Je pense qu'il est encore un peu trop tôt, pour cela. Car voyez-vous, nous sommes encore trop incertains et nous avons vite fait de retomber dans les anciens tourments en y pensant trop. Il n'y a rien de plus dangereux. Ah oui, rien de plus dangereux pour une personne qui vient de sortir de sa dépression et qui l'amènera avec une presque certitude à de nouveaux doutes qui sont les premiers pas dans la détresse. Bien sûr, il est important d'apprendre la prière et l'échange des pensées avec Dieu. Pour cela, je suggère qu'il ou elle apprenne d'abord à prier dans la foi pour la guérison du corps. On peut voir et ressentir le corps et nous serons moins nerveux et moins peureux de défaillir dans la prière pour la guérison à cause de petits problèmes. Et en fin de compte, on peut très bien vivre avec quelques petits problèmes et j'en ai aussi, croyez-moi. Mes chers auditeurs, eh bien, Ils le savent. Et oui, ils connaissent les souffrances physiques qui sont souvent issues de problèmes psychiques. Et c'est pour cette raison chaque guérison physique sera accompagnée d'un renforcement de la force d'esprit et en même temps que la foi grandit, eh bien, on peut commencer à s'occuper des problèmes plus profonds dans la vie de la personne. La prière pour la foi, elle n'est pas une formule magique, mais simplement une prière où l'on demande la foi en Dieu et prions pour qu'elle soit exaucée. Les dépressifs sont sensibles aux migraines, aux problèmes de digestion, les cauchemars et d'autres tourments. Il faudrait essayer de choisir l'une de ces souffrances et essayer de créer un lien dans la prière avec la foi et la force de guérison de Dieu. Car personne n'est vraiment guéri tant qu'elle n'a pas appris à entrer en contact direct avec son guérisseur céleste. Le plus important pour la prière de la foi est de croire que la force, la puissance de Dieu est vraiment réelle et que cette force, cette puissance est que la lumière soit. Voyez ? Que la lumière soit et qu'elle rayonne encore toujours à travers l'univers. Et ce fleuve d'énergie a été exploité de tout temps, que ce soit chez l'homme moderne, qui ne croit absolument en rien, et à cette force, cette puissance créatrice de Dieu. Mais je ne parle pas pour des hommes qui créent des atmosphères spirituelles avec des couleurs de guerre, des plumes ou des tam-tams, même que je respecte ces premiers essais primitifs de la recherche du contact avec Dieu. Je ne parle pas non plus pour ceux qui ont déjà une foi, la foi en Dieu, mais qui renient l'existence du mal. Je respecte aussi ces hommes-là. Cependant, voyez-vous, je ne partage pas cette vision de la vie. Ce n'est pas dans ma nature. Je reste un homme susceptible aux dépressions, car la tragédie et le malheur me sont trop conscients pour que je puisse simplement fermer les yeux et trouver tout beau et tout exempt de problèmes. Comment alors puis-je créer en moi une attitude de foi, un sentiment que Dieu entend mes prières? Je le réussis en forçant tout simplement mon imagination. Oui, cela est difficile, mais ne vous laissez pas abattre, vous qui avez tendance aux dépressions. Cela a aussi, parfois, ses avantages, car l'on est moins tenté de croire naïvement et ne comptons pas sur les éternels optimistes avec leurs phrases telles que « Toutes choses sont possibles pour Dieu » ou « Dis simplement une prière et tout ira bien. Only believe and there will be no problem anymore. Du bist jetzt befreit von all deinen Problemen. Das ist ja wunderbar. » Bon, eh bien, voyez-vous, ces hommes ignorent totalement que toutes choses sont possibles pour Dieu, mais que toutes les choses sont bien loin d'être possibles chez eux. Leur force n'est pas encore bien développée et leur foi pas assez renforcée et ils oublient facilement que Dieu ne travaille pas dans le cadre de la magie, mais dans le cadre de ses propres lois qu'il a créées lui-même. C'est pour cela qu'il faut prier globalement et continuellement afin que la porte s'ouvre et reste ouverte pour pouvoir recevoir la force, la puissance de guérison. En fin de compte, ils ne se rendent pas compte que nous ne sommes pas les seuls sur terre et que l'humanité tout entière doit se tourner beaucoup plus vers Dieu pour que toutes les choses possibles pour Dieu deviennent aussi une réalité. Ne te plains pas de ta façon plus lente de procéder, car elle t'amènera par-dessus les dangers, c'est-à-dire au but. Cher ami, je te suggère ceci pour ta prière. Premièrement, choisis-toi une faiblesse ou un symptôme pour lequel tu peux vraiment prier. Mais n'essaye pas de prier pour tous en même temps. Deuxièmement, résume ta prière en une image de ton corps. Comment ton corps sera lorsque il sera guéri, et non en une image de ton corps encore souffrant. Il faut penser positivement. Chaque cellule de ton corps a des réactions rudimentaires et elles réagiront à tes paroles. Par exemple, si je prie pour la guérison d'une migraine, je ne dis pas « s'il te plaît, laisse-moi ne plus avoir le mal de tête ». Car rien que les mots « mal de tête » peuvent, et oui, ça peut arriver, peuvent déclencher le mal de tête. Ça peut arriver. Aussi, je n'essaie jamais de prier pendant une attaque de migraine pendant des heures et des semaines. Cela ne ferait qu'empirer le mal. Parfois, il est nécessaire, et ce n'est pas un crime, de prendre 2 aspirines et hop, au lit. Et ce sont dans ce cas-là, les choses qui deviendront plus efficaces. Je risque de pouvoir me réveiller guéri. J'ai développé pour moi cette manière de prier. Il ne faut pas être fanatique absolu. Mais, s'il te plaît, on peut dire, s'il te plaît, mon Seigneur, viens à moi et guéris le sang, pour qu'il puisse à nouveau couler harmonieusement de la tête aux pieds et que nulle part ne se forment des bouchons. Mes maux de tête furent peut-être guéris donc pendant des années après, mais ils ont perdu petit à petit de leur intensité et aujourd'hui, ils n'arrivent plus du tout. Troisièmement, imagine-toi ce que tu demandes dans ta prière et retiens cette image le plus longtemps possible, mais pas en te forçant. Et si tes problèmes reviennent, remémore-toi cette image en consolant ton corps avec ces paroles. Écoute bien. Tout cela n'est au fond pas bien grave. Alors, vois comment ce serait bientôt. Nous sommes déjà sur le chemin. Ne te fâche pas avec ton corps et pense que la guérison d'une situation amenée par le stress de la vie a besoin de temps. Oh oui, ça a besoin parfois un peu de temps pour guérir. Ça ne veut rien dire s'il ne se passe pas tout de suite, en claquant des doigts, quelque chose. Et quatrièmement, surtout, n'oublie jamais de remercier Dieu que sa force, sa puissance entre en toi et de toutes les manières possibles, et qu'avec sa volonté, cherche à guérir ton corps en son entier. Et je trouve alors normal de le remercier, le Seigneur, avant même que je sois guéri. Vous savez, c'est important de remercier le Seigneur, qui n'est pas notre valet, qui est vraiment le Seigneur, roi des rois. Et donc, de le remercier, on devrait même le remercier à genoux. Moi, je vous dis ce que je pense, n'est-ce pas? On remercie bien un ami s'il veut nous rendre service. Cela est très naturel et même poli, et nous ouvre le chemin. Intentionnellement, je dis avec sa volonté, car c'est sa volonté de te guérir, et non pas comme Dieu le veut, peut-être. En principe, chaque prière est un essai pour découvrir la volonté de Dieu. Si par exemple, nous allons voir un médecin, nous pouvons et devons absolument le faire parfois, car la prière n'exclut pas du tout de voir un médecin, de même que de manger. Nous trouvons important et normal de vouloir la guérison, car cela est la volonté de Dieu. Si le médecin ne croyait pas, mais pas du tout, à la guérison, il ne serait pas devenu médecin, voyons. Je tiens à cette formule selon sa divine volonté, car ce sont des mots forts qui prouvent notre foi, contrairement au « comme Dieu le veut ». Va savoir, qui montre plutôt de l'hésitation. J'aimerais revenir sur l'importance pour ceux qui se préoccupent des âmes, qu'ils soient dans les ordres ou pas, d'apprendre la juste prière sans prendre tout le poids sur eux. On peut l'apprendre à ses amis personnellement ou dans un groupe. On ne devrait pas attendre que les dépressions se manifestent. Et vous, les prêcheurs, sur vos autels, qu'est-ce qui vous empêche d'instruire aux novices le principe de la prière pour la foi dans le langage actuel de l'Église? Cela ne vous facilitera pas seulement le travail des pourparlers, mais aidera aussi tout un chacun s'il connaît la force, la puissance de Dieu, au lieu de courir chez le curé, le pasteur, dès qu'il leur manque quelque chose. À part la raison évidente que cela mûrit l'âme, il y a encore une autre raison en rapport avec le lien entre le corps et l'esprit. Si l'on se donne trop de peine de guérir tous les nerfs qui sont coincés ou les maux d'estomac qui sont d'origine nerveuse, il se peut qu'on enlève à l'âme des soucis dont elle a momentanément besoin. Certaines personnes disent qu'elles ne veulent volontairement pas se faire soigner pour ne pas devoir chercher les raisons profondes. Mais cela voudrait alors dire que la conscience se dit « Non, 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 je ne veux pas, j'aimerais mieux avoir la migraine que d'apprendre le pardon. » Le pardon envers quelqu'un où je sais que j'ai mal agi. Il existe peut-être certaines personnes concernées par cela et ils n'ont que à garder leur migraine s'ils le veulent absolument. Mais chez la plupart des personnes, la situation n'est pas aussi claire que cela. Il s'agit chez eux plutôt de ceci. Le subconscient sait qu'elle n'est pas encore capable de voir en face ses problèmes, ses problèmes passés et ses problèmes présents, et ainsi une part de ses problèmes se reporte évidemment sur son corps. Le corps, il fait fonction de pare-choc. Il aide l'âme et l'esprit à porter le poids. Et cela se manifeste en symptômes physiques. Si l'on veut à tout prix réussir la guérison de ces symptômes, on déséquilibre le rapport entre corps et esprit. Par contre, si tu apprends la prière à cette personne, la lumière de l'équilibre entre les deux sera à nouveau rétablie, peut-être plus lentement que tu le souhaites, mais d'autant plus sûrement. Dans ce contexte, il est déplorable de constater que beaucoup d'églises gardent pour elles la prière pour la guérison et affirment qu'elle ne peut être pratiquée uniquement par les prêtres et les pasteurs et dans les réunions de guérison spécifiques. Comme c'est étonnant qu'il y ait des gens qui essaye de limiter le Créateur alors qu'il ne peut pas être limité. Il est donc grave également que dans certaines églises, la guérison n'est qu'une simple formule et une pure routine, c'est-à-dire qu'on donne son nom à un cercle de prière. Ensuite, on va à la réunion de guérison et on croit qu'on a rempli son devoir de chrétien. Certains affirment et instruisent même que la guérison est entièrement le devoir de l'Église et de personne d'autre en dehors de l'Église. Que veulent ici dire ? Que veulent-ils dire ? Je vous le demande. Qu'est-ce que est vraiment la guérison si ce n'est l'écoute de notre prière pour le Seigneur? Un religieux, il peut ou elle peut décider que personne d'autre n'a le droit de prier à part lui ou elle-même. Eh bien non, chaque chrétien sauvé est né de nouveau, que ce soit un homme ou une femme, que ce soit des parents pour leurs enfants, peuvent pas seulement le faire, mais c'est même un devoir. Mais ne mangeons-nous pas aussi du pain chez nous pour satisfaire notre besoin physique? Et n'avons-nous pas aussi le droit de boire un verre de vin? Nous avons besoin du pain de la vie, la force du Saint-Esprit qui nous est donnée pour notre santé psychique et physique. Et ceci autant que du pain quotidien. Et le Saint-Esprit qui nous donne la guérison ne peut tout simplement pas rester enfermé dans une église, même si c'est une cathédrale. Aucun pasteur ou prêtre a le droit de le défendre. De défendre, si tel était le cas, eh bien, il affaiblirait sa force, sa puissance dans chaque église qui oserait l'exclure en tant qu'outil universel et se l'approprier uniquement, je dis bien uniquement, pour ses besoins personnels. Car le Saint-Esprit est autant dans le vent que dans le soleil et sur la terre et tout ce qui vit sur la terre. Il est donc sûrement disponible pour tout un chacun qui prie pour sa puissance, que ce soit un prêtre ou un pasteur, que ce soit un athée, même un homme ou une femme ordinaire. Et même, et là vous allez être étonné, pour un enfant. Car il y a un enfant qui avait prié pour son père gravement malade sur son lit. Et croyez-moi, eh bien, il a eu l'exaucement à sa prière, à son intercession tout simple avec ses mots d'enfant. Et le Seigneur a guéri son papa. Là, on peut dire ensemble, alléluia, gloire à Dieu. Il est bien que l'Église existe, mais tout service d'amis ne peut être remis. Et il peut arriver que quelqu'un meure dans l'attente ou que chez d'autres, l'âme se refroidisse par manque d'empressement. Il est bien qu'il existe des réunions de guérison, des réunions du soir et des communautés, mais ce n'est pas assez. La vie entière devrait être emplie du sens de s'occuper l'un de l'autre en communauté. Car tel Dieu s'est occupé de nous, nous devons nous occuper des autres. Cela, nous pouvons le dire dans la Bible et nous pouvons le lire car vous recevrez l'affirmation si vous scrutez un peu votre Bible et vous la secouez un peu de sa poussière et vous verrez que c'est vrai. Plus les adhérents d'une église, ils ont confiance dans la prière pour la puissance du Saint-Esprit, mais plus ils seront quoi? Plus ils seront indépendants dans la prière pour la guérison, et mieux ce sera pour eux. Chers amis, veuillez s'il vous plaît écouter le témoignage de ce pasteur anglais. Écoutez bien, un jour, c'est lui qui parle, un jour lorsque j'étais dans une église chrétienne, on me demanda, après une réunion de guérison, de prier spontanément avec le pasteur John Hope pour une femme qui avait un cancer inguérissable. J'avoue franchement que j'ai vu cette rencontre un peu avec scepticisme. Je m'imaginais une femme détruite jusqu'au plus profond d'elle-même et rampant dans l'église. Ceci ne fait pas forcément preuve d'une grande foi, mais je reste seulement un homme et ne brille pas toujours autant que le soleil. Mais au moment où cette femme entra enfin debout avec des joues même roses et rayonnantes, mon cœur se remplit immédiatement de la foi. Du fait qu'elle avait participé plusieurs fois aux réunions de guérison, elle était presque complètement guérie. On devait seulement prier pour son rétablissement complet et l'entretien de sa santé. Alors comme me l'a expliqué une fois un ami médecin, il m'avait expliqué que les cellules cancéreuses peuvent se multiplier très rapidement, comme chez un enfant. Et j'ai donc prié pour que son corps puisse fabriquer uniquement des cellules d'adultes et que toute cellule anormale qui n'avait pas encore été découverte soit détruite par la force, la puissance du Saint-Esprit. Mais du fond de mon cœur, je savais qu'elle n'avait pas besoin de cette prière, car elle était pratiquement déjà guérie. Et après avoir participé régulièrement depuis 30 ans au Saint-Sacrement, et aussi grâce aux soins apportés à son âme et esprit par ce grand et sympathique saint de cette église, John Hope, cette église était tellement emplie de la force du Seigneur qu'on la ressentait déjà dans l'arrangement de celle-ci, mais on la ressentait encore bien plus dans l'amour, oui, dans l'amour qui régnait dans cette église. Tout le monde était le bienvenu, non seulement ceux qui étaient habillés pour l'occasion soigneusement et cravatés, mais aussi des amis qui sortaient de prison, du centre de réhabilitation ou même qui venaient de la rue. J'ai pu le constater de mes propres yeux, car j'ai dû enjamber une personne devant l'entrée de l'église qui dormait paisiblement après une nuit de fête un peu trop arrosée. Personne ne se sentit outré. Il était autant le bienvenu que les visiteurs éveillés et soigneusement habillés et cravatés. Cette église était, grâce au travail de la foi, due, on peut dire aujourd'hui, à ce retraité pasteur John Hope, elle était donc cette église remplie d'amour, remplie de compassion et de libération. C'est bien malheureux que toute l'église ne soit pas ainsi. Si une église arrive au point de faire juste une attraction de la guérison, ou plutôt une autre activité organisée, elle ne pourra jamais être remplie de cette force et puissance. J'ai aussi constaté que certains cercles de prière sont plus, on peut même dire, et ça paraît bizarre de le dire, sont parfois davantage destructifs que constructifs. Car si quelques-uns de ses participants se donnent une importance trop grande, l'orgueil, par le fait qu'ils croient avoir un lien particulier et privilégié avec le Saint-Esprit, et que les autres de la communauté sont rien pour eux, alors ils ne forment pas une union, mais une désunion. Certains doivent se dire, c'est ainsi, nous avons le Saint-Esprit que les autres n'ont pas, nous le méritons, mais pas les autres. À cela, j'aimerais ajouter ceci. Le Saint-Esprit peut prendre possession de vous, mais vous ne pouvez jamais prendre possession du Saint-Esprit. Si vous essayez de concentrer cette force du ciel uniquement sur votre groupe à vous, que ce groupe puisse devenir le centre de votre vie et la réunion du dimanche une simple formalité à laquelle vous vous êtes désintéressé, alors ce cercle est déjà sur le déclin. N'as-tu jamais été étonné? Étonné du fait que certains groupes débutent souvent dans la joie et l'énergie et se calment par la suite rapidement jusqu'à tomber à l'eau, que la joie et l'énergie diminuent jusqu'à vraiment à se transformer en simple parade. La réponse est très simple. Le Saint-Esprit est une puissance, une énergie, c'est l'eau de la vie. Et si cette puissance n'est pas transmise à la communauté toute entière, bien que cette communauté soit une partie du Saint-Esprit, si cette puissance n'est pas utilisée pour redonner la vie dans le groupe et qu'elle est confisquée et gardée pour soi-même au lieu de la distribuer librement, alors cette eau, cette source divine devient terne et l'énergie s'affaiblit et la puissance disparaît. Dans un village de montagne, un vieux puits d'eau est employé depuis plus de 100 ans. Je n'ai jamais bu une eau si pure et si fraîche. Je veux dire par là que si l'on ne l'emploie pas régulièrement, cette eau s'épuise, elle s'épuise vraiment, car il y a de la boue qui vient, qui commence à le boucher. Et plus on puise de cette eau, et bien plus elle sera propre et abondante, c'est ainsi. Alors certains diront, mais tout de même, nous employons cette puissance. Oui, mais pour qui? Pour qui? Pour vos plans et pour vos demandes spéciales uniquement pour vous-même? Partez-vous à la recherche des hommes et des femmes pour les sauver ou restez-vous tranquillement assis et priez empli du Saint-Esprit que pour vous-même? Excusez-moi, mais cela ne dure guère très longtemps, car la puissance du Saint-Esprit est une force qui s'agrandit et s'élargit. Agrandissement et élargissement sont une partie importante de la créativité. Si une plante ou une fleur s'arrête de pousser, la mort a déjà commencé. Chers amis, au début, on peut prier pour sa guérison personnelle et plus tard, on priera pour ses amis et peut-être priera-t-on aussi pour des inconnus, pourquoi pas, dont le nom a été transmis au cercle de prière. Mais le temps viendra où l'on exigera de vous d'élargir vos prières, car le but n'est autre que la construction sur terre du royaume de Dieu, pas votre royaume à vous personnellement. Ainsi, les adhérents d'une église qui sont emplis du Saint-Esprit doivent le partager avec toute la communauté, même s'ils ne le conçoivent et ne le comprennent pas tout à fait. Depuis quelques années, cela est exactement le but d'un cercle de prière et d'un groupe de lecteurs de la Bible, et sans que cela soit officiellement connu. Beaucoup de gens ne savent même pas pourquoi une église est empli d'une si grande force et que rien qu'en entrant déjà, on se sent physiquement et psychiquement beaucoup mieux. Mais si ce cercle parlerait publiquement de cette raison, de cette force qu'ils ont obtenue, eh bien l'énergie s'affaiblirait si on commence à le publier sur les toits avec orgueil. Ces personnes vont toujours très tôt le matin à l'église, il y a toujours un petit noyau, et ils prient Jésus-Christ pour qu'il guérisse et pour qu'il emplisse de sa présence et de son amour libérateur toute l'église. Ils prient aussi pour le pasteur, pour le prêtre, pour qu'il ne fasse pas ou ne croit pas ce qu'il veut bien croire, mais pour que Dieu le bénisse et lui fait donner le meilleur de lui-même. Après quoi, il regarde s'il existe des gens dans cette église qui leur procurent un mauvais sentiment, des gens qu'ils n'aiment pas trop, et il prie aussi pour eux. Et oui, ils n'ignorent pas leurs propres défauts, mais les guérissent avec quoi? Avec la prière. Ils prient pour que l'amour du Christ puisse venir en eux et que tout sentiment négatif envers la personne puisse disparaître et que tout ce qui a de bien et de bon dans cette personne puisse ressortir en positif. Ensuite, il remercie, surtout il remercie le Christ comme pour la prière, pour la foi, et peuvent s'imaginer ainsi de se réjouir comme cette personne sera étant enfin un enfant de Dieu, co-héritier avec Jésus-Christ. Il est donc contournable qu'avec ceci, les sentiments vis-à-vis de cette personne puissent se transformer. Et par leur prière, ils lui donnent une part du Saint-Esprit. Elle devient leur enfant spirituel et ils pensent à elle comme à un ami jusqu'à ce que l'image devienne une réalité et que les sentiments en sa personne se soient naturellement transformés. « Connais-tu Madame X ?» me demandant une fois un ami. « Elle ne m'a pas parlé depuis des années. » Or ce matin, j'ai prié pour elle, et plus tard, sur le pas de la porte de l'église, elle s'est retournée brusquement vers moi, et elle a pris mes deux mains, et elle m'a souhaité gentiment une bonne journée. C'était carrément magique. Cette femme ne savait pas que par la prière de son voisin, l'amour du Christ l'avait empli. Mais son subconscient, lui, le savait et réagissait avec l'amour. Cela s'appelle le vrai pardon. Si l'on partage l'amour du Christ avec ceux qui en ont le plus besoin, nous pouvons aussi prier avant la réunion pour une demande spécifique et l'amener ainsi dans la prière du soir, après quoi nous pouvons prier et même parfois, quand c'est nécessaire pour une maladie très grave, de jeûner et prier. Mais cela doit se passer en secret, selon Saint Matthieu chapitre 6, verset 6, où nous pouvons prier pour tout un chacun de la communauté qui a besoin de guérison, afin que la force, la puissance guérissante de Dieu puisse emplir corps et l'âme, ainsi que l'esprit de cette personne. Les plus merveilleuses guérisons dont j'ai été témoin dans ces communautés résultent précisément de ces cercles de prière. Mais la guérison est toujours, toujours le travail du Saint-Esprit et est atteint par le groupe. Le Saint-Esprit remplit d'abord un cercle de 12 personnes, par exemple, et d'autres plus librement l'eau guérisseuse, elle peut donc ainsi se déverser sur les hommes et les femmes, d'autant plus une église en est emplie. Et de cette manière-là, le cercle de prière se fond inlassablement avec la communauté et créer ainsi une union et non pas une désunion. Le groupe concerné travaille non seulement pour et dans la communauté, mais aussi avec elle. Ils en font simplement partie et participent naturellement aux choses de la vie courante. Oui, chaque forme de travail nous donne une occasion supplémentaire de prier en secret. Par le fait de travailler et de parler ensemble, nous nous sentons acceptés et nous nous désolidarisons pas des autres. Oui, nous ne devons pas nous désolidariser des autres, mais nous devons être une part du corps de Jésus-Christ. Mais je croyais que l'on devait s'en éloigner. J'entends souvent dire cela. Mais surtout pas, ne vous éloignez pas du corps du Christ, car cela veut dire que ce sera la mort pour votre esprit et pour votre âme. Notez soigneusement 1 Corinthiens, chapitre 12, et lisez depuis le verset 12 jusqu'au verset 31. Peut-être que l'on s'est éloigné de ce monde actuel dans lequel nous vivons parce que nous ne vivons pas d'après les mêmes normes. Ça, c'est évident. Mais on ne peut s'éloigner du corps du Christ sans en mourir. Il est donc absolument vrai que les cercles de prière qui s'éloignent du corps du Christ se retrouvent tôt ou tard dans une stagnation mortelle. D'un autre côté, les novices intéressés par la guérison emploient humblement leur place au milieu de cette communauté à déverser pendant les réunions leur prière d'amour. L'amour de Dieu y habitera et cette église deviendra un endroit de la présence et de la puissance guérissante de Dieu. Chers amis, nous allons terminer ensemble par la prière. Prions. Seigneur, nos âmes doivent se recueillir en ta sainte présence lorsque nous nous prosternons devant toi. Mais nous sommes tellement captivés par les objets et les intérêts de cette terre que nous pouvons à peine en détourner notre attention. Et cependant, cette terre est-elle donc le lieu pour lequel nous sommes faits? N'y sommes-nous pas étrangers et voyageurs? L'homme dans la force de l'âge, la jeune fille, le petit enfant ne se trouve-t-il pas appelé en même temps que le vieillard à quitter cette vie? Pouvons-nous donc être si légers, si insouciants et si peu sérieux? Nous devons te prier, ô Dieu de bonté, de nous rendre plus attentifs à tout ce qui concerne notre éternelle destinée, car c'est ici le temps où nous pouvons travailler à notre salut. Veuille donc nous déprendre de tant de vaines préoccupations, de tant d'affections qui ne sont point épurées et sanctifiées par ton amour, de tant d'intérêts futiles. Veuille nous préserver, ô Seigneur, de la funeste influence qu'exerce sur nous le monde et ses dangereux prestiges, que nous n'imitions pas les insensés qui détournent la tête pour ne pas voir un abîme alors qu'ils courent pour s'y précipiter. Rappelle-nous et fais-nous sentir que trop souvent, même en riant, le cœur est triste lorsque on appartient au monde, tandis que pour tes enfants étaient rachetés, là le Seigneur, là il y a la joie absolue. Et même on peut avoir la joie dans les larmes, car le sentiment de ta présence, la pensée de la brièveté de notre vie et l'attente de ton jugement redoutable peuvent seuls nous rendre véritablement sérieux. Et lorsque nous le serons devenus, nous nous sentirons pressés de chercher dans ta miséricorde toute gratuite, dans le pardon que Christ nous a obtenu au prix de ses souffrances et de sa mort, les assurances sans lesquelles l'âme et l'esprit ne peut connaître de la paix. Bénis-nous donc, ô Dieu, en nous donnant des impressions sérieuses et en élevant nos cœurs et nos âmes à toi. Exauce les prières que nous t'adressons pour nos parents et pour nos amis. Aie pitié de tous ceux qui souffrent, de tous ceux qui pleurent, de tous ceux qui ne sont point encore soumis à ta loi. Et qu'à toi soit la louange, l'honneur et la gloire pour l'éternité. Amen.